Mardi 13 mars, bienvenue à l'aérospatiale Julie Gagné avec vous jusqu'à 18h30, accompagnée bien entendu de Jacques Gignac à la mise en onde cette semaine. Encore une fois, une émission assez bien remplie. En deuxième partie d'émission, on va discuter avec Mathieu Valade qui nous présente l'exposition Inquiétant miracle à la Galerie des arts visuels. Anouk Pella viendra nous faire un petit topo sur l'exposition Le souffle des côtes d'Alain Lefort qui est présentée à la Galerie La Certe. Également, on discutera de la soirée de performance qui est organisée par Folliculture ce vendredi à 20h au Studio P. Extase, un chien écrasé qui scintille, hein, ça pique notre curiosité, notamment pour en parler. On va discuter avec Olivier de Sagazan, un des artistes français qui fera une performance qui était également cet été au Symposium international d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. On fera le tour de l'actualité en art visuel avec Raymond Poirier. Bonjour Raymond.
Bonjour Julie.
Ça va bien?
Ça va.
Tu nous tends une petite perche.
Notamment la Manif internationale d'art de Québec qui est invitée au Mexique.
Oh, ben, bonne nouvelle. Et puis, ben, pour accompagner l'émission, c'est Simon Roy a... Mon Dieu, c'était pas écrit sur ma feuille son nom, là, j'étais un peu mêlée. Simon Roy a fait une sélection audio pour aujourd'hui. Bonjour Simon.
Bonjour Julie.
Ça va bien?
Ça va très bien.
Oui, tu nous as choisi un artiste avec un nom que j'ai trouvé assez particulier.
Ben oui, c'est un peu ce qui m'a aidé à choisir l'album pour cette semaine. Il s'appelle Elvis Herod. C'est un artiste qui vient de l'Angleterre. Son vrai nom, c'est Eric. Même son vrai nom est assez drôle. Il s'appelle Eric Bumbledunk. Donc,
j'avoue que c'est un peu comique comme nom.
Ben oui, c'est ça. Puis c'est un artiste vraiment complet, comme je les aime. C'est un acteur, un écrivain, compositeur, réalisateur, etc. Donc, qui fait un peu tout. Je pense qu'il fait même de la peinture. Quoi, j'ai pas réussi à trouver qu'est-ce qu'il faisait. Donc, c'est ça, c'est un artiste vraiment à découvrir. J'adore ce qu'il fait. Un peu, mon Dieu, comment je pourrais décrire ça? Un peu de la pop, mais vraiment expérimentale. Donc, toutes sortes de trucs, musique, beaucoup une grosse base électronique, mais il utilise aussi des instruments conventionnels qui remixent. Donc, ça sonne presque, c'est ça, ça sonne électronique, mais c'est vraiment pété. Un petit peu de field recording au travers de tout ça, ça donne vraiment un genre de pop assez déjanté. Donc, j'ai choisi 4 pièces qui est sur son album Underwater Workshop. Je vous avais envoyé comme information que c'était le distributeur, ben, c'était Free Music Archive, c'est l'endroit où est-ce que je l'ai trouvé, mais c'est publié sur Chinstrap Music, un label qui a été créé par Ergo Fizmiz, un autre drôle de personnage que je vais vous faire jouer
dans cette
semaine. Donc, ben, c'est ça, on va écouter 4 pièces de l'album Underwater Workshop. La première s'appelle Overboard Honk. Ensuite de ça, c'est Un Omen. Puis la troisième pièce, plus tard en émission, c'est Dumb Broken Like. Et enfin, la dernière s'intitule Radio Drowning. Vous allez voir, assez pété comme musique.
Mais Simon Roy, merci beaucoup.
Puis c'est toujours plaisir.
On t'écoute à Web Musique ce dimanche.
Oui, à 20h comme à tous les dimanches.
Ben voilà, on s'en va tout de suite en pause audio. On écoute un extrait de la pièce Overboard Honk sur les ondes de CKRL. We'll be right back. vient d'entendre un extrait de la pièce Overboard Hunk de Elvis Herod. C'est Underwater Workshop. Vous pouvez trouver les liens sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Et puis, je cède tout de suite la parole à Raymond Poirier.
Oui, on parle tout d'abord de la manif d'art de Québec qui s'en va au Mexique du 12 au 27 mai prochain. Une exposition qui va regrouper 7 artistes québécois dans un des plus importants festivals culturels mexicains, donc quand même. Là. Donc, le groupe de la manif a été invité par le directeur général de l'événement, Sergio Alejandro Matos. L'organisme responsable de la manif d'art fait partie de ceux qui vont représenter donc la province pour le volet art visuel actuel de cet événement-là. L'événement en question, c'est le 15e Festival Cultural des Mayos qui aura lieu dans la ville de Guadalajara et ainsi que dans 12 villes avoisinantes. Donc, un très gros événement. Les artistes québécois vont occuper l'Hospicio Cabañas, qui est un édifice classé au patrimoine mondial de l'UNESCO pendant l'événement et par la suite également. Donc, une exposition qui regroupe des œuvres d'artistes comme Doyon Rivet, Couxasville, Jocelyn Robert, Jean-Pierre Gauthier, Jérôme Fortin, Raphaël Degroote et Dan Brault. C'est développé sous le commissariat de Sylvain Campeau. L'exposition s'appelle Candide, Candido et, nous dit-on, reflète une certaine candeur et transparence, et cite les mots du commissaire. Il dit « Les œuvres proposées par les artistes sélectionnés ne se présentent pas comme porteuses d'un élan critique de déconstruction. Bien au contraire, ces artistes préfèrent en général épouser au plus proche et non à mettre à distance formelle en procès le propos qu'ils souhaitent illustrer. »
Ben, belle nouvelle.
Belle nouvelle. Et autre belle nouvelle, tiens, avec le Québec qui brille de tous ses feux à l'international. Et j'ai l'impression qu'on fait un peu un rewind à une émission qui a probablement été diffusée l'année dernière dans les mêmes dates, donc avec l'événement new-yorkais là, des foires d'art contemporain qui s'est terminé en fait la semaine dernière. Et un peu à l'image de l'année dernière, cette année, ce qu'on nous dit dans certains quotidiens dont Le Devoir, c'est que le Québec s'est une nouvelle fois démarqué. Donc, un nombre record de galeries qui ont participé à l'événement, une belle visibilité également pour celle-ci. On parle notamment de 3 galeries montréalaises qui ont participé à Volta, une foire qui est en marge de l'Armory Show, qui est quand même la plus grande et la plus notoire exposition de cet événement-là à New York. On parle des galeries Parisian Laundry, Pierre-François Ouellet, Art Contemporain et Bata Contemporain. Également, les galeries SAS et Armure, eux, ont été invités à la foire Scope. Et parmi eux, notamment souligné Simon Bilodeau, de la galerie Armure, qui a été un des 3 finalistes du Scope Foundation Award 2012, qui est un prix qui souligne le travail de nouvelles galeries d'artistes émergents. Alors, encore là, une belle reconnaissance là, pour les galeries québécoises. Et en termes d'artistes, là, on parle notamment de Janet Warner, d'Ed Pien, de Sophie Jaudoin, Patrick Bérubé, Olga Chagountinova, Thomas Nebuller, Valérie Kokakis, Guillaume Lachapelle, etc.
La félicitation.
Voilà. Et sinon, des nouvelles des conditions de travail, tiens, dans les centres d'artistes, les centres canadiens en arts médiatiques indépendants. Qu'en est-il? En fait, il y a un rapport qui a été publié tout récemment par l'Alliance des arts médiatiques indépendants pour essayer de voir si, au niveau des emplois proposés, eh bien, c'était justement au niveau comparativement à d'autres organismes sans but lucratif. Finalement, ce qu'on a remarqué, c'est que d'un côté, il y avait des gros problèmes de financement. Et ces problèmes de financement-là amenaient des conditions salariales qui sont un peu plus bas par rapport à d'autres secteurs sans but lucratif, de manière générale, et qu'en parallèle, même dans un contexte de bas salaire, il fallait tout de même que les employés soient très qualifiés. Plus on monte dans les responsabilités au sein de ces centres-là, donc les responsabilités, les compétences exigées aux employés, aux gestionnaires qui sont très grandes. On parle de connaissances de la production médiatique, du secteur des arts, connaissances financières, compétences en rédaction de demandes de subventions. La moitié des postes exigent des études collégiales ou universitaires, des années d'expérience. Donc, si on dit, ben, il y a peut-être une adéquation qui manque entre les salaires proposés et les compétences exigées, qui est expliquée, comme je le disais, par le sous-financement. Et sinon, portrait de la réalité actuelle, on parle de travailleurs qui sont jeunes et très qualifiés, beaucoup d'heures supplémentaires, 10 à 20 heures par semaine qui sont pratiquement obligées, peu d'avantages sociaux, mais des plans d'indemnisation, peu de perfectionnement professionnel et un roulement de personnel qui est malheureusement très élevé, 40% des travailleurs qui occupent leur poste depuis 2 ans ou moins.
Ah, quand même, hein?
malheureusement, parce que c'est jamais très bon pour la stabilité d'une entreprise d'avoir un trop gros roulement de personnel. 2 ans, c'est très court. On n'a pas le temps de bâtir quelque chose quand on est là. C'est simplement de maintenir.
Oui, c'est ça, c'est vraiment dommage.
Alors, on verra si l'étude va amener des changements, peut-être dans le financement et dans les appuis qui sont donnés à ces organismes-là. On peut toujours rêver.
Oui, puis on peut mettre ça dans notre pile de dossiers à suivre, mais celle qu'on suit plus lentement, malheureusement.
Sinon, un autre dossier qui sera à suivre, Julie, c'est du côté du Louvre. Le Louvre a conclu avec IBM un contrat pluriannuel d'un montant non précisé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on cherche à modifier la manière dont on gère les musées. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments à considérer au niveau du nettoyage, de l'entretien, du chauffage, de l'éclairage, du verrouillage, l'humidité, etc. Et donc, IBM va mettre en place un système au Louvre qui va gérer tout ça de manière intelligente, entre guillemets, donc à travers l'informatique, à travers les nouvelles technologies. On espère beaucoup d'économies, de 40% d'économies d'énergie dans les bâtiments anciens. On verra si le résultat sera au niveau des attentes et des espoirs. Et en terminant, j'incite les gens aussi à aller faire un petit tour sur le blog de l'aérospatiale pour voir quelques images concernant l'article dont je vais vous parler. Alors, le blog, évidemment, l'aérospatiale.wordpress.com.
Merci, Raymond.
Et en fait, c'est une artiste qui s'appelle Anna Utopia Giordiano, une jeune artiste italienne qui a décidé de réinterpréter des célèbres tableaux qui montre la beauté, mais qui date d'une époque qui est aujourd'hui révolue pour nous faire saisir à quel point les standards de beauté ont changé, justement, historiquement parlant. Alors, elle s'interroge autour, justement, de représentation de la figure de Vénus dans différents tableaux. On parle notamment de la naissance de Vénus de Botticelli ou encore de la Vénus endormie d'Artemisia Gentileschi. Et donc, c'est assez intéressant parce que, effectivement, en mettant ces modèles-là aux standards des canons de beauté d'aujourd'hui, donc des années 2000, eh bien, on se retrouve avec des images qui changent radicalement la lecture qu'on peut en faire. Là. Une fois passées sous les scalpels de Photoshop, les Vénus sont beaucoup plus fines de taille, les hanches ont pratiquement disparu, les seins sont beaucoup plus gros. La Vénus de Botticelli semble si maigre au centre de sa coquille Saint-Jacques qu'on a l'impression qu'elle va se casser en deux. Celle de Gentileschi se reposait à l'époque, même si elle semble au bord de la mort.
Ouais. Donc, on enlève toute forme de sensualité, en fait, quand on regarde ces œuvres-là. C'est un peu troublant.
Oui,
ça donne un constat très troublant, en fait, sur notre époque.
Ça nous ramène, ça nous montre à quel point l'art, justement, peut nous amener des réflexions, des constats, puis peut-être éventuellement des actions aussi autour, justement, de dossiers comme ceux-là. Et effectivement, la question de l'image corporelle qui est très actuelle aujourd'hui, effectivement, c'est intéressant de voir, justement, les changements de paradigme là, au cours des années.
Raymond Poirier, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Puis on t'écoute ce vendredi à la vie en BD.
Oui, notamment un recueil de Nelly Gant illustré en BD et en illustration.
Mais on s'en va en pause audio. On écoute Un Omen sur les ondes de CKRL. On vient d'entendre un extrait de la pièce « A No Man » de l'artiste Elvis Herod, tiré de l'album « Underwater Workshop ». Pardon, c'était une suggestion de Simon Roy. On revient de notre côté, en fait, on s'en va plutôt en France. Petite mise en contexte, vendredi 16 mars au Studio P, Folliculture présente la soirée « Extase, un chien écrasé qui scintille ». Donc, une soirée de performance qui est centrée sur l'extase et sur la recherche exigeante qui s'impose à certaines personnes quand les réponses rationnelles sont plus suffisantes pour canaliser leur quête d'absolu. À l'occasion de ce deuxième événement qui est consacré à l'extase, on accueille la visite de France, soit le performeur, sculpteur, peintre et photographe Olivier de Sagazan. Bonjour.
Bonsoir.
Bon, oui, bonsoir, c'est vrai, on est en France. C'est quelle heure chez vous?
Ben, chez moi, il est 22h45.
Voilà. Ah oui, quand même, pas trop tard, malgré tout. Monsieur de Sagazan, c'est votre deuxième passage dans la région de Québec en moins d'un an, parce qu'on vous a vu au Symposium d'art contemporain de Baie-Saint-Paul l'été dernier. Et ce vendredi, vous allez proposer votre performance Transfiguration, en fait, ce qui est issu d'une série de performances que vous faites depuis 2001. Pouvez-vous nous en parler?
Écoutez, c'est un travail un peu étrange de surmodelage du crâne et de la face. Donc, je prends de la terre, je me recouvre le visage avec cette terre, et à l'aveugle, je dessine des visages devant le public. Alors, ces visages, ce qu'ils ont d'étonnant, c'est qu'ils vont au-delà du conformisme habituel de la représentation de ce que c'est qu'un visage. On va vers la monstruosité, mais en même temps quelque chose qui est à la fois monstrueux et beau, et qui révèle sans doute des tas de formes de décharges qui constituent en fait le corps humain, et qui n'apparaissent pas habituellement, puisque quand vous faites une peinture... vous mettez un œil, puis l'autre œil, le nez, la bouche, etc. Et tout ça est dans une forme de système référentiel bien connu, tandis que là, ça part complètement en volo. Et il apparaît des choses très étranges qui font penser un peu au visage de Bacon, par exemple, ou à toute une série de visages qu'on a pu voir et qu'on continue à voir dans l'art de type expressionniste.
Il y a quelque chose de primitif aussi hein, dans ces visages-là. Ça peut parfois faire penser à des masques, par exemple.
Oui, on est très proche des arts primitifs, des arts teke, Congo, d'autres types d'arts qu'on trouve aussi en Australie, un peu partout. D'ailleurs, toutes ces peuplades-là utilisent toujours du kaolin, donc cette terre blanche qu'ils mettent sur leur visage. Et ainsi, recouvert de cette terre, ils passent, semble-t-il, dans ces rites initiatiques dans un autre monde, où deviennent des formes de médium entre le monde des vivants et le monde des morts. Et c'est vrai que pour moi, c'était le jour où j'ai fait cette première fois cette performance, c'était un peu une gifle, puisque après 20 années de peinture, je réalisais qu'en travaillant à l'aveugle, je faisais finalement des choses plus intéressantes, ce qui est quand même un peu inouï. Mais en fait, je pense que ce travail en aveugle permet justement de libérer la pensée et de sortir des routes de toute tracée.
Ben oui, puis j'imagine que ça vous met quand même en état d'introspection parce qu'avec ce masque-là que vous créez, ce visage-là que vous créez, vous perdez quand même un contact avec l'extérieur. Parfois, vous ne pouvez pas voir, je ne sais pas si vous pouvez entendre.
Oui, ben, tout à fait. Il m'est même arrivé quelquefois quand j'avais un grand manchot de terre sur le visage. Je me dire peut-être que je suis tout seul dans la salle, les spectateurs sont partis horrifiés. Je trouvais que c'était une belle métaphore de ce que pourrait être finalement, de façon un peu angoissante, la vie, c'est-à-dire qu'on serait tous à se raconter des histoires sur un monde qui en fait n'existerait pas ou n'existerait que dans notre tête. On serait tous enfermés dans une sorte de matrice et on se figurerait un monde. Et non, effectivement, le fait de travailler comme ça sous la terre et en aveugle vous fait avancer avec une forme d'énergie où vous vous posez qu'une seule question qui est d'essayer désespérément de faire apparaître quelque chose qui serait comme l'expression ultime de ce que c'est que véritablement qu'un visage. Parce que je pense, avec beaucoup de gens comme Artaud par exemple, que le visage humain n'a pas encore trouvé sa face et que c'est au peintre à la lui donner. Depuis mille et mille ans en effet que le visage parle et respire, on a encore que l'impression qu'il n'a pas encore commencé à dire ce qu'il est et ce qu'il sait.
Puis est-ce que ça incarne en même temps une quête de ce qui fait l'humanité aussi, de soit de détruire ou de révéler ce qui fait notre humanité?
Ah ben bien sûr, je pense que l'humanité, ce qui constitue finalement l'être humain comme l'animal en général, c'est justement c'est toutes ces possibilités organiques jamais comblées, si vous voulez, toutes ces disponibilités errantes qu'on a en nous et que justement l'art et la science, etc., permettent de développer. Si vous voulez, grâce à la science, on commence à considérer des tas de formes d'extension du corps grâce à tous ces objets artificiels qui se soudent avec le corps, comme je sais pas, une pile cardiaque, comme des lunettes, comme un portable, etc. Tout ça, ça donne d'autres caractéristiques géographiques au corps. Ça lui donne un pouvoir d'extension énorme sur le monde. Et de la même manière, je pense que dans le domaine de l'art, on peut tout d'un coup révéler des tas de choses que tout un chacun sent, ressent à l'intérieur de lui, mais qu'il ne peut pas d'habitude extravertir.
Mais j'imagine que c'est dans cette perspective-là aussi que le masque que vous faites, vous le façonnez, vous le refaçonnez tout au long de la performance, un peu comme un rituel.
C'est un peu un rituel, c'est-à-dire que c'est une manière pour moi d'essayer de me retrouver, de me sentir. Je pense que la première caractéristique, si vous voulez, de la vie, c'est la sensibilité, c'est-à-dire une sorte de toucher de soi par soi, qui fait qu'on se reconnaît à chaque instant où on se réveille le matin et à chaque instant où on parle, on sait que c'est nous qui parlons. Mais en même temps, on peut avoir des troubles sur cette question du moi et de ceux qui se touchent. C'est-à-dire que je dis c'est moi, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire quand je dis c'est moi? Ce sont c'est un mot qui s'est collé entre moi et le langage. Et donc, là, je suis dans une forme de quête un peu d'absolu pour essayer de serrer au plus près ce que ça veut dire être là.
Vous parlez de quête d'absolu, justement. Je trouve que ça fonctionne bien avec la soirée de performance qu'on attend vendredi. Dans vos performances, parce qu'il y a des vidéos qu'on peut voir quand même sur Internet, on sent qu'il y a des moments où il y a quelque chose, justement, qui vous dépasse. Hein. On parle du thème de l'extase dans la soirée de vendredi. On sent que c'est assez présent aussi dans vos performances. Des fois, vous faites des bruits sur le mur ou encore vous-même, vous exprimez avec la voix, là, comme s'il y avait quelque chose de primordial dans tout ça.
Bah, je pense que, par définition, si on veut être un peu dans ce théâtre à la Artaud qui caractérise la performance aujourd'hui, cette idée de performance qui est une idée, qui est un concept très très global, hein, qui est peut-être pas le même d'ailleurs au Québec qu'en France, mais c'est vraiment cette idée d'être là au plus présent du moment où on parle, et même si dans les performances on a une petite cartographie de la façon dont on va évoluer, ce qui est intéressant, c'est d'être à chaque instant complètement présent là et soumis à des influences de l'environnement et d'essayer, en fonction de ce qui va se passer, d'évoluer. Mais bien entendu, on est toujours dépassé par les événements. La vie vous dépasse toujours et il s'agit d'essayer à ces moments-là d'être quand même au plus présent et le plus lucide possible.
Oui, puis en même temps, j'ai senti qu'il y avait quelque chose, la pulsion aussi, dans ces gestes-là, dans la manière dont vous vous attaquez à ce visage-là, mais qui relève aussi d'un côté chef d'orchestre dans la précision.
Alors, il y a bien entendu une précision, c'est-à-dire à un moment donné, il y a une forme de savoir-faire, c'est-à-dire que bon, tout à chacun peut fermer les yeux et poser un doigt sur son œil ou sur son nez ou sur sa bouche, mais c'est vrai qu'il y a un moment donné, avec ce travail-là, je sais un peu commence à sentir des choses qui se passent. Mais ce qui m'intéresse au plus fort dans cette performance, c'est, dans une forme de rage et d'exténuation, d'essayer d'aller à quelque chose qui, comment dirais-je, à l'inverse de la psychanalyse, si vous voulez, où on est allongé, on ne bouge pas et on commence à essayer de faire sortir des tas de choses qu'on a dans la tête. Et à moi, c'est plus dans une forme d'exténuation, c'est-à-dire dans une forme d'énergie que je pousse, de râlement, de mouvement de danse aussi, etc., que j'essaie de finir par, à un moment donné, une forme de balancement, de faire sortir quelque chose qui est en moi et que je ne connais pas très bien et qui me constitue pour autant, enfin... C'est un peu difficile d'en parler, c'est quelque chose qui est à voir et à sentir.
Effectivement, et pour le voir, ben, on aura l'occasion vendredi 16 mars à compter de 20h au Studio P. Olivier de Sagazan, merci beaucoup.
Eh bien, écoutez, merci à vous.
Puis là, on se revoit donc vendredi 20h. Juste peut-être une petite parenthèse, il n'y aura pas seulement Olivier de Sacazan, il va y avoir également trois autres performeurs, dont Caroline Marois, donc une artiste qui vit et travaille à Québec, qui est une directrice artistique, auteur et metteur en scène pour la compagnie de théâtre Exigu. Elle va nous présenter la performance Scare, qui réunit la danse et le théâtre, dans laquelle elle explore le phénomène de l'automutilation. Donc, pour ce faire, elle s'appuie sur une forme de poétisation du geste à travers la danse, où des images physiques d'attirance et de répulsion sont exploitées. Également, on va pouvoir voir une performance de Belinda Campbell, une artiste montréalaise qui a une pratique en performance, en vidéo, en art audio, en dessin, et s'intéresse à la construction de personnages. Et dans la performance Bonne Boucle, elle va nous présenter un personnage aux prises avec sa solitude et sa sexualité. Il s'agit d'un clown tragique qui oscille entre le risible et la vulnérabilité, qui est celle devant des caméras vidéo qui filment une transformation narcissique. Donc, on met de l'avant un côté burlesque et humoristique, qui côtoie un côté plus méditatif, violent ou encore mélancolique. Et puis, on aura également l'occasion de voir le travail de Christian Messier, qu'on connaît bien ici quand même à Québec, puisque c'est un artiste de Québec. On connaît pour avoir fondé la revue Punctum, pour être le cofondateur de Pan Peinture. Mais on connaît aussi sa pratique en peinture et en performance, ses performances qui souvent sont énergiques, qui sont brutales, parfois dangereuses également, des actions d'une grande intensité. Et pour la soirée de vendredi, il nous présente Extase en deux mots. Donc, il a été inspiré par l'étymologie et le sens assez complexe du mot extase, et il met en exergue différentes tentatives dans le but de se tenir hors de lui-même. Donc, la performance pour lui est un lieu de recherche inédite où l'intensité de l'action performative va rejoindre le dépassement psychologique de l'artiste. Donc, tout ça, comme je le disais tout à l'heure, s'est présenté au Studio P. La soirée s'appelle Extase, un chien écrasé qui scintille. C'est vendredi dès 20h et c'est au coût de 10$. De notre côté, on s'en va en pause. On discute avec Anouk Deloge.
Depuis 1973, CKRL demeure un leader dans la découverte et la promotion de la relève artistique. Achetez votre carte de membre au coût de 25$ ou faites un don pré-radioton de 10$ ou plus avant le 30 mars et courez la chance de gagner un des deux prix suivants. 150$ à la boutique Le Pédalier. 150$ chez Sillon le disquaire. Adhérez en téléphonant au 418-640-2575 ou en ligne à sillon.com. Parce que votre soutien au 89.1 est essentiel.
Chaque mardi et vendredi, les soirées de CKRL sont présentées par le Bal du Lézard. Semblable à l'image du 89.1, le Bal du Lézard fait dans la diversité colorée. Un lieu de rencontre culturelle branchée, art et musique. Un environnement idéal pour refaire le monde en bonne compagnie. Le Bal du Lézard propose aussi des amuse-gueules tels que pizza et hot-dog européens, ainsi que les meilleurs produits de microbrasserie et une imposante gamme de vodka. Entrez dans la danse du bal avec comme trame sonore les soirées du mardi et du vendredi à CKRL. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue, 88 529 3829.
À ne pas manquer en mars à l'Ampli Québec. Préparation au studio avec Stéphane Rancourt.
Le souffle sonore avec Marie-Louise Bourbeau.
Atelier de rédaction de demandes de bourse avec Guillaume Sirois et Geneviève Savoie.
Jeu à la caméra avec Jean-Pierre Bergeron.
Saisir l'univers d'une chanson avec Serge Lacasse. Le week-end d'Éric Goulet.
La relation artiste-gérant avec Hubert Mancion. Et enfin, jeu d'écriture avec Reggie Brassard.
AmpliDeQuébec.qc.ca 88-977-9764.
L'Ampli de Québec remercie la Ville de Québec pour son soutien financier, le Carrefour Jeunesse Emploi de la capitale nationale, de même que ses fiers partenaires, l'Hôtel Pur, Voir Québec et CKRL 89.1.
Les mardis soirs, écoutez CKRL. 18h30. Découvrez les musiques et les voix qui ont fait l'âme de l'Amérique. Animé par Gilles Jumel. L'émission de musique folk et ses légendes. Seulement au 89.1. Cultive tes goûts. Est une présentation du Bal du Lézard qui, à l'image de CKRL, vous offre une diversité colorée. 1049 3e Avenue, 88 529 3829.
Thank you.
Il est 18h précisément, nous sommes toujours le mardi 13 mars 2012. Vous savez comment j'aime la précision. Julie Gagné toujours avec vous, accompagnée de Jacques Gignac à la mise en onde. Vous écoutez toujours l'aérospatiale. Avant de passer à la chronique d'Anouk Deloche, je vous invite à aller sur le site l'aérospatiale.wordpress.com si vous voulez écouter l'émission ou des bouts d'émission en balado-diffusion, si vous voulez consulter les liens pour la musique, pour la revue de presse, consulter les communiqués de presse aussi pour les actualités en art visuel. Puis sinon, ben, vous pouvez toujours aussi devenir ami avec l'aérospatiale sur Facebook. On ne fait pas de discrimination et on accepte tout le monde. Sur ce, ben, je cède la parole à Anouk Deloche qui est allée faire un tour à la galerie La Certe. Bonjour Anouk.
Oui, bonsoir Julie.
Ça va bien?
Ça va bien toi?
Oui.
Oui, ben, je me lance tout de suite. Alors, je suis allée voir l'exposition Le souffle d'écho de Alain Lefort à la galerie La Certe. Alain Lefort, moi, je ne le connaissais pas, donc je vous fais une petite description, même s'il a quand même un bon portfolio à son actif. Alain Lefort vit et travaille à Montréal. C'est un artiste à qui l'on connaît le travail relié à la nature, la forêt qu'il transforme. Il manipule pour créer des nouveaux lieux presque paranormaux. On le nomme aussi chroniqueur d'écosystèmes forestiers. C'est par des transformations, des jeux esthétiques qui met en scène le mystère qui les habite. Sur le site barrage.com, la journaliste Rachel N. Farquharson y trouve même son travail une forme de spiritualité en disant « C'est possible que si le paradis existe, qu'il puisse ressembler justement à ça. »
Ah, ouais,
c'est ce qu'on dit sur son travail. La même journaliste définit aussi son travail de psychédélique, de surréaliste, de fantaisie de l'inconscient. Tout ça avec la spiritualité. On se souvient aussi d'une autre exposition, une exposition antérieure où il courbait une partie de l'image puis qu'il l'étirait dans la zone d'impression pour que la forêt prenne alors une place plus que principale, mais omniprésente, comme si la forêt débordait de ce qu'elle était réellement. Là, c'est vraiment de prendre une image, puis la faire courber, juste fait que ça remplit tout le cadre. Et cette série-là s'appelait Égide, Égide 4.1, 1.2. Puis quand j'ai fait mes recherches sur Égide, je me suis rendu compte que c'était le bouclier de Zeus et d'Athéna, qui faisait référence à la mythologie grecque. Et en retournant vers le souffle d'Écho, Écho, c'est aussi une nymphe grecque, c'est la personnification du phénomène acoustique qu'on appelle l'écho, que tout le monde connaît quand on répète sans cesse. Alors, revenons quelques années plus tard à la galerie La Circe sur la côte de Meldos, après la mythologie grecque. Alain Lefort, il présente une quinzaine de photographies moyens et très grands formats de montage photographique avec des forêts de mangroves. Mangroves qui est un écosystème où, avec plein de marais, des arbres avec des racines qui sont visibles. Là, c'est vraiment la grosse broussaille.
Je pense qu'il est allé dans les Everglades en Floride,
exactement.
C'est ça?
Hein? Oui, exactement, c'est ça. Puis on voit, quand on est là, ben, en fait, on dirait que c'est un endroit que l'homme n'a pas le droit d'y mettre les pieds tellement qu'il y a des racines, il y a des branches, puis il y a de l'eau partout. C'est vraiment pas fait. C'est vraiment très...
C'est hostile à l'humain.
Oh, oui, c'est ça. Ça repousse l'humain. Donc, l'artiste ne se contente pas seulement de proposer des belles images de cette forêt floridienne, mais il intervient sur l'image. L'image qui a été quelque peu victime d'une multitude de hasards. On dit que techniquement, dans les Everglades, en Floride, il s'est passé beaucoup de choses sur ces pellicules. La technique, le taux d'humidité était trop élevé. Ces pellicules étaient partiellement périmées ou abîmées. Il y a des lentilles, des mécanismes désajustés. Donc, tout ça, ça donne une texture à l'image en lecture simple. Par contre, elle ne devient plus simple parce qu'Alain Lefort multiplie certaines parties. Il juxtapose, ajoute du contraste, surexpose certaines parties. Combine les points de vue, collage. Donc, c'est vraiment un grand collage là, de tout ça ensemble. La forêt a l'air encore plus remplie, encore plus...
plus luxuriante, si c'est possible.
Exactement. Exactement. Donc, de loin, on a l'impression que c'est une captation quasi cartographique, que c'est vraiment ce qu'on voit. Comme si on pouvait être là, dans la forêt, on se dit, ah, ça y est, c'est des grands formats de ça. Mais quand on s'approche, avec toute l'accumulation que l'image, elle devient magnifiée dans une nouvelle recombinaison. Donc, quand j'ai entré dans la galerie, moi, la première chose qui m'a frappée, c'était les grands formats. On est à la hauteur du dessus de l'eau, des marais. Même que pour moi, qui est assez petite, j'étais à la hauteur de la terre, de la glaise. Donc, j'avais le bord de l'eau juste en face des yeux. J'avais l'impression d'avoir été engloutie par ces mangroves. Comme si j'étais sous l'eau, puis les arbres, les racines se refermaient sur moi. C'était assez une impression, parce que c'est vraiment des grands formats. Après ça, plusieurs autres œuvres photographiques. Il fait des collages avec plusieurs carrés d'images texturés de manière différente. différentes pour former un tout. De loin, c'est visible encore, mais quand on s'attarde, on voit vraiment, c'est évident, il y a plein de carrés avec différentes textures, différents contrastes, mais de loin, on ne voit rien.
Ah ouais.
Encore, il joue avec la symétrie ou l'asymétrie, que ce soit de gauche à droite ou en haut de l'eau, en bas de l'eau sur la réflexion. Il y a vraiment un jeu de miroir, mais on ne sait jamais vraiment exact, on ne sait jamais vraiment où est la délimitation ou où est le miroir, parce qu'on a l'impression des fois qu'il joue au test de Rorschach, mais plus souvent qu'autrement, on sait quelque chose qui cloche, mais on ne s'en rend pas vraiment compte parce que son asymétrie ou sa symétrie, il la fait vraiment, il rajoute tellement de superpositions, de collages, de textures, il joue avec les fonds que finalement, on pense qu'il y a quelque chose qui cloche, mais on ne s'en rend pas tout de suite compte que c'est une asymétrie.
Puis comme tu dis, c'est tellement luxuriant que tout de suite, on ne s'en rend pas compte non plus parce qu'on prend pour acquis que c'est aussi dense que ça, finalement.
Exactement, oui, exactement. Puis René, on se dit, hey, c'est la même racine. Ah, elle est là, elle est là, elle est là. Puis elle change, puis elle se transforme. C'est vraiment un super de beau jeu, là.
C'est ça.
Oui. Oui, c'est ça que je voulais dire, que c'était beau.
Ben moi, ce que je veux dire, c'est qu'on retrouve là l'écho, justement. Hey, tu sais, l'écho, bon, je
dans mes notes, j'ai dit, rappelez le titre, le souffle de l'écho, parce que justement, dans... Oui, l'écho, il y a le son, comme si je disais Julie. Mais aussi l'écho de l'image vraiment qui s'ajoute, qui se superpose, qui s'accumule. C'est vraiment l'écho. Moi, j'ai vraiment ressenti dans son. Quand j'ai compris toute la superposition, je fais OK, c'est ça l'écho. Pour moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. L'exposition en dégage vraiment un certain surréaliste, un nouvel endroit captivant, mystérieux. Il y a quelque chose qui nous fait autant voir une bride de rêve que du tragique. C'est beau, mais en même temps, ça fait mal.
Oui, c'est ça.
C'est vivant, mais c'est mort.
Il y a une vulnérabilité même. Je n'ai pas encore vu l'exposition, mais j'ai vu quand même des photographies. Puis on sent cette vulnérabilité-là, puis cette sensibilité-là aussi qui est très, très forte.
Exactement, exactement. Il y a vraiment là, la limite des deux. On ne sait pas trop si on sent bien ou si on n'aime pas ça. Est-ce que c'est une image, justement, est-ce que la forêt, elle est fertile ou est-ce qu'elle est en train de s'assécher, même si c'est rempli d'eau? Il y a quelque chose de vraiment, vraiment surréaliste. Là. Il y a vraiment quelque chose de fort qui sort de là. Puis, on disait aussi, quand on parlait de l'accumulation, dans le communiqué de presse, il définissait aussi cette image-là de baroque. J'ai trouvé que par la force des recombinaisons de ce qu'on voit puis de l'accumulation, il y avait vraiment quelque chose. On n'était plus en face de je viens de gâcher mon punch. On n'était plus en face de des photographies, mais on aurait dit un gros tableau abstrait où est-ce qu'on avait plus des sensations que de voir des choses. Là. Il y avait vraiment on aurait dit des coups de peinture où on avait super bien défini quand même. Là.
En plus, je pense qu'il joue avec le support parce que si j'ai bien vu, je pense qu'il y a des photos qui sont marouflées justement sur toile.
Ah non,
j'ai vu ça. Ah non, ok, ben j'avais vu ça sur Internet.
À moi, je m'en souviens pas aperçu.
Là, c'est pas grave.
Ça se pourrait, mais j'ai vraiment juste regardé les images. Des fois, c'était sur plexi, très, très grand format. Okay. Il y avait des 5 par 6, là, quelque chose comme ça.
J'ai peut-être regardé dans ce cas-là une image plus ancienne.
Ben, l'exposition en totalité, je trouvais que vraiment, il y avait une très grande sensibilité de ce que l'endroit dégageait. L'artiste démontrait bien son interprétation de ça. La sensibilité que lui a dû percevoir ou ressentir dans cet endroit-là si particulier. Alors, je vous invite tous à aller voir Alain Lefort, Le souffle d'écho à la Galerie Lacerte, 1 Côte d'Inan.
Et c'est présenté jusqu'au 4 avril, donc on a quand même amplement le temps.
Ça commence.
Oui, ça commence en fin de semaine. Je pense que ce samedi, il y avait le vernissage. Oui. Anouk, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
On se revoit dans environ 3 semaines, 1 mois. Là. C'est plutôt variable.
Exactement.
De notre côté, on s'en va en pause audio. On écoute Dumb Broken Like sur les ondes de CKRL. The people. Si vous voulez les liens pour le téléchargement gratuit, vous pouvez aller sur l'aérospatiale.wordpress.com. Vous pouvez aussi trouver toutes les informations relatives à l'émission, écouter l'émission en balado diffusion. Pour la dernière partie de l'émission, on se dirige, ma foi, on s'en va au Saguenay, on voyage aujourd'hui grâce au téléphone pour rencontrer Mathieu Valade qui nous présente Inquiétant Miracle à la Galerie des Arts Visuels. Bonjour Mathieu. Ça va bien?
Ça va bien, merci vous.
Oui, ça va très bien. Il fait encore clair, là. C'est assez
pour ça. Ça se rallonge.
Inquiétant miracle à la Galerie des arts visuels, c'est des objets ou des situations qui ne se peuvent pas ou qui ne devraient pas être là?
Il y avait plus des espèces de choses qui ne devraient pas arriver, mais qui arrivent, mais qui font que les choses marchent quand même, mais pas vraiment.
OK. Les titres, hein, quand on regarde l'exposition, en fait, parce que c'est une installation avec des œuvres, il y a 4 titres. Marcher quand même, ouvrir la brèche, se reconnaître, chercher l'abîme. Il y a quand même une certaine sensibilité ou une vulnérabilité qui émane de ça.
Ouais, en fait, je cherchais un peu à faire des espèces d'actions. Hein. C'est toutes des œuvres, les titres, puis chaque sculpture, c'est une action. Donc, je voulais un peu amener des actions humaines qui peuvent être pénibles ou qui peuvent être drôles, dépendamment de comment on les regarde.
Oui, d'ailleurs, tu dis pénible ou drôle, il y a quand même une ambiguïté là, à travers l'exposition dans chacune des œuvres. C'est quelque chose de volontaire?
Oui, je pense qu'il y a une part d'humour importante, puis une part aussi de dérision aussi, là, un peu j'aurais envie de dire qu'il y a peut-être quasiment rapport à certains découragements, mais pas découragement non plus. Je laissais ça ouvert au niveau de la lecture aussi, là, mais ça se situe quelque part entre les deux, là.
OK.
On peut aller de l'un à l'autre, je pense.
Dans l'exposition, habituellement, tu as plutôt des formes géométriques, tu es plutôt près de l'abstraction. Dans ce cas-ci, tu as commencé à intégrer des éléments de figuration. Est-ce que c'est comme une nouvelle tendance dans ton travail?
Oui, je pense qu'il y a des choses qui changent. Je pense que j'essaie de conserver cette espèce de vocabulaire géométrique que j'ai développé dans les dernières années, mais en amenant une dimension ou l'image plutôt que d'être à construire par association des éléments puis des dispositifs, puis dire... Là, c'est peut-être ça, mais plutôt de donner les images plus facilement, puis d'y aller plus peut-être dans une poésie de l'objet ou de l'image.
Puis dans l'exposition, j'ai remarqué, c'est assez facile à constater, il y a beaucoup de miroirs, soit des miroirs par la boule miroir, ou encore par un grand miroir, ou le chien miroir, ou etc. Est-ce que c'est quelque chose, justement, qui, pour toi, amène le spectateur à référer à lui-même en regardant tes œuvres?
Pas nécessairement. C'est plus des dispositifs. En fait, c'est des espèces de surfaces qui réfléchissent le lieu, qui réfléchissent. En fait, je voulais qu'entre les sculptures, il y ait un rapport. Dans la boule miroir, c'est pour les reflets qu'il y a sur le lieu, le le grand miroir devant le chien, c'est pour que le chien en miroir se regarde dedans, fait qu'une espèce d'effet de mise en abîme ben, qui est plus symbolique parce qu'il n'y a pas vraiment l'effet de mise en abîme, là, comme dans l'autre, par exemple, l'autre chien où il y a l'espèce de jeu de lumière, où là, c'est une véritable mise en abîme de la lumière qui réfléchit plusieurs fois, qui donne cet effet-là. Donc, c'est vraiment pour le dispositif lui-même, mais je trouve ça assez joyeux, finalement, que oui, en installant tout ça, me rendre compte que hey, on le voit dedans, on fait partie, finalement, de la sculpture quand on est dedans.
C'est particulièrement présent, en fait, dans Se reconnaître, où là, il y a le chien, justement, en miroir, devant le miroir, mais il y a nous qui regardons ce chien-là aussi. Il y a vraiment quelque chose de ludique, là.
Il y a quelque chose un peu, dans ce chien-là, où il y a l'espèce d'effet de lumière, je voulais donner une impression d'eau. Puis oui, dans l'eau, on se voit, on se regarde dans une flaque d'eau, ou si on regarde dans une flaque d'eau, on a forcément notre reflet qui apparaît. Hein.
J'ai envie de parler de l'œuvre Marché quand même. C'est une installation avec un dispositif. En fait, il y a un capteur de mouvement, j'imagine.
Ouais.
Puis on s'approche et là, il y a comme une grosse boule disco par terre qui se met en branle, qui commence à bouger. Puis la pièce Take My Breath Away qui joue, mais vraiment très, très, très ralenti. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir cette pièce-là, plus spécifiquement?
Je voulais choisir une pièce qui avait rapport à danser un slow. Puis je trouvais que c'était pas au ralenti, ça marchait trop bien. Ça c'était trop. Puis ça avait moins rapport au mouvement de la boule.
Ouais.
Je voulais choisir une pièce qui était peut-être évocatrice des premiers slows que j'ai dansés ou d'une époque d'adolescence.
Mais on sent en même temps qu'il y a quelque chose de brisé dans cette scène-là, justement, le mouvement de la boule qui n'est pas,
qui n'est pas
tout à fait le même tout le temps, avec la pièce comme ça qui ralentit, comme si on était dans un souvenir déformé par une tristesse ou quelque chose comme ça.
Oui, bien, en fait, je pense qu'il y a de ça qui émane de la sculpture. C'est comme apparu au fil du processus, je ne sais pas. Au début, je voulais faire dans le processus, la première étape, c'était supposé d'être une boule cassée par terre avec les lumières qui tournent au plafond, mais je la trouvais belle, la boule, quand je me suis procuré, puis j'avais plus envie de la casser, fait que j'ai choisi qu'elle fonctionnerait quand même, mais plutôt que ce soit fonctionner quand même par l'éclairage, que ce serait par elle-même qu'elle fonctionnerait comme si elle était vivante, puis je voulais lui donner cette espèce de mouvement-là un peu lourd, un peu maladroit, là, de ça. C'est vrai qu'en choisissant cette chanson-là, puis en la mettant au ralenti, ça lui donne en effet une espèce de caractère triste.
Oui, puis si on passe de cucu justement à un peu plus nostalgique, parce que c'est sûr qu'on se recompose la scène avant que la boule soit tombée finalement. On se raconte une histoire aussi à travers ça.
Oui, c'est ça.
Bon, il y a d'autres œuvres, bien entendu, dans l'exposition, notamment « Ouvrir la brèche », où tu as fait comme une palette avec une pile de boîtes, de carton, en fait, des boîtes bien génériques, sur lesquelles il est écrit « Promesse d'un quotidien simple », en argent encore, moi je pense encore au miroir. Est-ce qu'il y a une ironie quand même dans tout ça? Parce que les boîtes de carton, habituellement, ça contient des objets de consommation.
Ben voilà, je voulais que ces boules-là contiennent des... quelque chose qui est pas commercialisable, qui se marchande pas. Puis bon, je vais chercher longtemps, puis un soir, je rigolais avec une amie, puis elle me contait sa vie, puis là, elle me disait que c'est ça. Est-ce que son échec amoureux, c'était la promesse d'un quotidien simple, mais que ça fonctionnait pas. Donc, j'ai fait, ça y est, j'ai trouvé mon titre, ça va être ça mon titre. Tu me le donnes dessus. Et puis, elle m'a permis d'utiliser, voilà.
Il y a quelque chose quand même, c'est ça, d'antithétique, là.
Pardon?
Je trouve qu'il y a quelque chose quand même d'antithétique, là, dans le sens où c'est vraiment la boîte. Souvent, on imagine la télé, la vidéo, tout ça.
Ouais,
puis, en fait,
c'est la boîte où tout le commerce transige.
Puis en même temps, il y en a une de ces boîtes-là qui est renversée au sol.
C'est l'événement de cette pièce-là, où il y a eu une... En fait, c'est comme la pièce qui narrative dans toute l'exposition, là, où on sent qu'il y a eu il est arrivé quelque chose, il y a eu un incident, la boîte est par terre, elle est ouverte, et puis quand on s'en approche, il y a une grosse vibration qui sort de la boîte, hein, une espèce de son très grave.
Oui, un son grave, on n'est pas sûr. Est-ce que c'est du danger? Est-ce que c'est un avion qui décolle? Est-ce que ce qu'on voit, c'est la promesse du quotidien simple ou au contraire, c'est le fait que ça ne pourra pas se produire à cause de l'accident? Donc, ça nous amène encore à nous questionner.
En fait, j'ai pas mis d'ordre là-dedans. L'écriture est venue après l'idée de la pièce, de la boîte qui tombe.
OK.
Et puis, je voulais vraiment mettre. Je voulais venir greffer à ça quelque chose encore des mots, de la poésie, pour donner plein de possibilités de sens. Mais là, ça, on peut vraiment s'imaginer que, bon, ça y est, tu fous le camp, c'est le quotidien simple qui fonctionne plus, ou comme il est à l'envers, ça marche plus, ou que ça va déclencher quelque chose de grave. Enfin, je pense que même moi, quand je fais quelque chose comme ça, j'ai pas une intention d'avoir un seul sens.
Oui, c'est plus comme plusieurs pistes de réflexion, j'imagine, que tu entretiens toi-même, puis ça s'est nourri par tout ça, là.
Ouais.
Peut-être une dernière question en terminant, parce qu'on a parlé de trois des œuvres sur les quatre. La dernière œuvre, c'est « Chercher l'abîme », où tu présentes encore une fois un chien qui est fait en stratifié. Donc, en tout cas, moi, je vois beaucoup le jeu d'illusion dans cette œuvre-là, dans le sens où stratifié donne l'illusion du bois et le chien est présenté sur une vitre qui est sur un miroir avec le néon qui donne l'illusion aussi là, de l'espace qui se continue ou qui se perce au plancher.
C'est ça, qui donne l'illusion qu'il y a une espèce de profondeur. En fait, je veux donner l'impression que cet animal-là était sur l'eau, qu'il marchait sur l'eau, mais qu'il pouvait s'enfoncer la tête dedans. Puis bon, comme c'est ça, c'était pas tout basé sur l'idée sur un dispositif qui fait du faux, qui fait de la fausse profondeur, je me suis dit, bon, quand quoi? Au début, je voulais faire le chien en miroir aussi, je me questionnais sur qu'est-ce qui est faux, c'est genre stratifié, faux bois, c'est le classique de sous-comptoir des années 90. Donc, c'est ça, c'est du top. Puis la forme aussi, qui rappelle un peu des images modélisées.
Oui, c'est vrai.
Avec tous les angles, des espèces de volumes-là, tout en espèce de géométrie complexe. Donc, je voulais amener tout ça dans l'idée que l'image est là, mais c'est faux. C'est une fausse profondeur, c'est un faux chien en faux bois.
Oui, j'avoue. Ben, Mathieu Valade, merci beaucoup.
Ben, merci à vous.
Puis, ben, je répète, Inquiétant Miracle est présenté à la Galerie des arts visuels jusqu'au 25 mars. On s'en va en pause audio, on écoute Radio Drowning sur les ondes de CKRL. vient d'entendre un extrait de la pièce Radio Drowning. C'était une suggestion de Simon Roy. C'est déjà l'heure de la fin de l'émission, mais bien entendu, avant de terminer, je veux quand même vous parler de quelques petites choses qui se passent dans le monde des arts visuels. Jeudi 15 mars à 19h, il y a le vernissage de deux expositions, en fait, telles quelles pour toujours, et je n'utiliserai pas mon veto contre toi, d'Oscar India Romeo et de Hugo Nadeau. Hugo Nadeau qui est directeur artistique à l'œil de poisson. Donc, exposition qui sera présentée à la galerie du pavillon Desjardins à l'Université Laval. Faites vite, ça se termine quand même le 23 mars, donc pourquoi pas profiter de l'occasion pour aller au vernissage. Quelques autres expositions qui se terminent en fin de semaine, notamment John Raffman de Nine Eyes of Google Street View et Emmanuel Galland de La Fontaine à Racine, en passant par Bossé et Talbot. Également les expositions à l'œil de poisson, soit Toi et moi de Dan Bro, Le Jardin des ondes de Dominique Pétrin et On se lundi matin de Julie Doucet qui se termine en fin de semaine et se termine également dans quelques instants l'aérospatial. Je remercie Jacques Gignac pour son travail à la mise en onde et je vous laisse entre très bonnes mains avec Gilles Chaumel et Folk d'Amérique. Bonne soirée à tous.